France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, je suis en compagnie d'un spécialiste du Moyen-Âge français, de son histoire et surtout de sa littérature. Auteur d'une biographie de Louis XI, de Saint-Louis, de Philippe de Comines, d'un ouvrage qui a marqué les esprits à l'époque, Armagnac et Bourguignon, dont je me souviens très bien, paru chez Perrin, ainsi que La fin du Moyen-Âge. Si je vous ai proposé de venir jusqu'à nous en ce dimanche matin, Joël Blanchard, c'est pour évoquer la figure étonnante de Philippe de Mézières. Bonjour Joël Blanchard.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Un personnage qui a traversé le XIVe siècle comme une comète, dites-vous. Et quel plaisir de vous lire pour redonner le souffle de ces siècles passés que l'on décrit comme obscurs, alors que vous ne cessez d'y voir du style, du souffle et de la lumière. Alors Philippe de Mézières, écrivez-vous, est une figure libre, chevalier, laïque, autodidacte, chancelier du royaume de Chypre, conseiller de 4 rois, dont Charles V et de 3 papes, explorateur, il connaît les empires turcs, les empires mongols, il connaît la Prusse orientale, et il porte une réforme radicale de la justice, des institutions, en quête d'une unité retrouvée. Un livre que vous venez de publier aux éditions Passé Composé, que je félicite et salue au passage pour la qualité de leurs travaux. Vous êtes professeur émérite à l'université du Mans. Alors une première question, comment tombe-t-on sur les œuvres littéraires d'un conseiller du roi Pierre Ier de Chypre?
Eh bien, le travail a été long parce que beaucoup des œuvres de Philippe de Mézières sont inédites. Elles sont en train d'être publiée, traduite, c'est un chantier de longue haleine, et surtout il m'a fallu me replacer dans le contexte historique, celui des croisades de la fin du Moyen-Âge, depuis 1291, depuis la chute d'Acre en 1291, l'idée de croisade est en berne, les hospitaliers dont l'ordre était dirigé depuis l'Orient se sont repliés d'abord sur Chypre et ensuite sur Rhodes. L'ordre du Temple, lui, a été dissous en 1312 par le pape Clément V, et on connaît ce qui s'est passé ensuite, le procès des Templiers et leur disparition. Ce qui rend l'entreprise de Philippe de Mézières d'autant plus intéressante et surprenante, c'est que il cherche d'une certaine manière à revitaliser cette idée de croisade à la fin du Moyen-Âge. Non seulement revitaliser une ancienne idée, mais aussi construire un projet ambitieux, qui est un projet de réforme globale de la chrétienté, dont il propose de manière très minutieuse et très méticuleuse l'organisation et la conduite. Jérusalem, à cette époque-là, n'est plus une ville à conquérir, c'est un symbole. Et c'est ce qui rend l'entreprise de Philippe de Mézières d'autant plus surprenante qu'il relance ce projet, cette idée de croisade, dans un contexte qui est un contexte difficile. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans, l'Église est déchirée par le schisme entre 2 papes, 3 papes. Hein. Il y a les compagnies, les écorcheurs, il y a tous les ravages qui ruinent ce 14e siècle qui est sombre. Et c'est dans cette contexte, dans cette ambiance, dans ces contextes, oui, que Philippe de Mézières lance ce projet de réforme globale de manière à amener la paix, amener ressources souder la communauté chrétienne autour de grands principes et surtout d'éviter de supprimer les causes d'affrontement. Tout ce qui était, pour ainsi dire, les clivages auxquels Philippe de Mézières veut apporter des solutions. C'est un peu une figure paradoxale. Alors vous disiez très justement que c'est une figure libre, un laïc, nous y reviendrons, mais c'est surtout il faut jamais perdre de vue que c'est aussi un pragmatique. C'est-à-dire, il veut apporter des solutions économiques, politiques, sociales à ce qui se passe, aux problèmes qui sont ceux du XIVe siècle dans l'Occident.
Alors, Philippe de Mézières serait né vers 327-328, je crois qu'on ne sait pas très bien l'année, voilà. À Amiens.
Oui, près d'Amiens.
Voilà, près d'Amiens. Une famille nombreuse, le dernier d'une fratrie de 10 enfants, je crois.
Exact. C'est une petite famille d'aristocrates, pas très riche. Et ce qui est là aussi étonnant dans son profil, c'est que à cette époque-là, les enfants, les garçons partent à la guerre. Enfin, nous sommes en guerre de 100 ans, donc on se met au service du souverain. Lui quitte très jeune le château de Mézières et part en voyage. Il part en voyage et fait un périple absolument extraordinaire. Il va en Italie au service des tyrans italiens, il va en Espagne, il part ensuite, il traverse l'Europe pour aller en Scandinavie, jusque chez les chevaliers teutoniques, la Prusse. Il repart à Venise, puis ensuite c'est l'Orient avec Chypre et puis Jérusalem, où il a une espèce d'illumination. Il nous dit dans son œuvre qu'il reçoit de Dieu les tables de la loi, qui sont les tables de l'ordre de la Passion du Christ qu'il veut fonder.
Alors Philippe de Mézières n'aurait pu être qu'un aventurier, au sens militaire du terme, s'il n'avait pas eu d'abord la foi, qui est très forte, et cette ambition démesurée, justement, d'apporter son propre projet de réforme successivement de ces étapes. Alors, il a eu une formation quand même assez solide, un garçon intelligent, qui est autodidacte, donc qui apprend par lui-même, et qui arrive un petit peu à transgresser, justement, ces questions d'ordre, on va dire, qui lui est venu par le voyage, justement.
Absolument. Sa culture lui vient des contacts, des réseaux qu'il a créés tout au long de ses voyages, de sa pérégrination. Une solide culture, mais il n'est pas... Ce qui est là aussi remarquable, c'est que généralement, les traités de croisade sont écrits par des clercs. Là, c'est un autodidacte, comme vous l'avez dit, dont la culture est puisée dans ses voyages. En particulier, je pense à la papauté, je pense à l'Italie, mais aussi à Chypre. Hein. Chypre, qui est dans laquelle il a passé 10 ans, il a été chancelier de ce royaume de Chypre. Il faut remarquer qu'il a gardé son titre de chancelier du royaume de Chypre jusqu'à sa mort. Et Chypre est un lieu magnifique de culture, parce que on y croise des musulmans, des juifs, des italiens, des arméniens, des francs qui sont de souche ancienne, mais également des chevaliers qui traversent, qui viennent à Chypre pour aller ensuite faire leur pèlerinage à Jérusalem. Et c'est dans ce milieu cosmopolite que Philippe de Mézières connaît très bien, qu'il a, pour ainsi dire, puisé son expérience et trouvé acquis sa culture, une culture immense. Il parle d'abord à Chypre, on parle 4 langues,
Il est polyglotte aussi.
Il est polyglotte, on parle l'arabe, on parle l'italien, on parle le grec, on parle l'arménien. Lui-même est polyglotte, il parle l'italien, sans doute le toscan, il parle le grec aussi, puisqu'il a traduit, ça c'est un élément important, il a traduit la fête de l'entrée de la Vierge au Temple, qui est un rite orthodoxe, qu'il a traduit en latin, et qu'il a ensuite traduit en français, et qui ensuite s'est diffusé en Occident. Donc c'est une culture, comme vous dites, qui transgresse les limites, enfin qui déborde le cadre habituel de la culture de cette époque, et qui explique le foisonnement culturel et intellectuel de cet esprit, qui est un peu comme une éponge, enfin qui absorbe tous les courants. On pense par exemple, pour citer une œuvre remarquable, qui est Le Songe du Vieux Pèlerin. Dans Le Songe du Vieux Pèlerin, il y a une image qui est très belle, qui est celle de l'échiquier. Et il y a 84 cases, et chacune de ces cases correspond à une mesure que Philippe de Mézières propose au roi de mettre en acte.
Le Songe du Vieux Pèlerin étant une œuvre de Philippe de Mézières, un point s'il vous plaît, arrêtons-nous sur cette dynastie des Lusignan. Nous avons abordé dans l'émission il y a quelques semaines l'histoire de Chypre avec Jeannick Durand, mais c'était plutôt la tradition byzantine. Mmh. Maintenant, donc, nous sommes dans cette Chypre des croisés. Que pouvons-nous dire sur ces Lusignan ?
Alors, c'est Lusignan, il connaît, il rencontre, quand il va à Chypre, c'est en 1345, il rencontre d'abord Hugues IV, qui est un prince modéré, assez tempéré, qui a des contacts pacifiques avec la population. Son fils est Pierre Ier, Philippe de Mézières connaît très bien Pierre Ier. C'est un jeune prince talentueux, guerrier, qui répond assez bien à l'image que l'on se fait à l'époque du chevalier partant en croisade. Hein, c'est-à-dire une image assez idéalisée de guerrier. Et alors, le portrait de Pierre Ier dans l'œuvre de Philippe de Mézières est un portrait tout à fait positif. On sait par contre, d'après les chroniqueurs grecs, que le Pierre Ier est un personnage assez sombre, qui avait de grands défauts, qui était exerçait une forme de tyrannie. Or, cet aspect tout à fait paradoxal de Pierre Ier n'apparaît pas dans l'œuvre de Philippe de Mézières qui lui conserve, pour ainsi dire, une faveur considérable. Enfin, il a pour Pierre Ier une attention, une affection. Alors ça se termine mal, puisque Pierre Ier est assassiné par ses frères. À ce moment-là, Philippe de Mézières quitte Chypre pour revenir auprès du pape à Rome, et puis ensuite, il se met au service de Charles V, de Charles V qui lui confie l'éducation de son fils, Charles VI. Et c'est dans ce cadre-là qu'il écrit le Songe du Vieux Pèlerin, qui est un traité pédagogique, dans lequel il multiplie les propositions, des propositions assez étonnantes, d'ailleurs, sur le plan économique comme sur le plan politique. Par exemple, il y a cette mesure tout à fait étonnante qui concerne l'usure. On sait que l'usure est condamnée par l'Église, et pour permettre de faire du commerce, d'être marchand, comme il dit, il crée une espèce de monde-piété qui est une forme revisitée des pratiques de l'usure, mais dans un cadre plus orthodoxe. Donc il a comme ça des fulgurances qui sont presque des anticipations. C'est un utopiste. C'est un utopiste, mais un utopiste pragmatique, c'est-à-dire que comme souvent chez les utopistes, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire il détaille par le menu les mesures qui doivent permettre justement de souder la communauté chrétienne et de la faire vivre et de la réformer surtout. Il y a cet aspect réforme qui est très important chez lui. C'est-à-dire que la croisade s'accompagne de ce qu'on pourrait appeler une purgation des erreurs et des fautes. Les deux volets ne sont pas dissociables. C'est ce qui fait la particularité de la sensibilité de cet utopiste qui est tout à fait étonnant.
Joël Blanchard, on vous sent très attaché à ce personnage.
C'est une figure très attachante.
Ces textes sont particulièrement bien écrits ?
Ils sont particulièrement bien écrits. Ils sont écrits en français et en latin. Parfois même, il traduit ses propres textes du latin en français. C'est-à-dire qu'il y a chez lui un souci de gagner un lectorat assez large et une volonté pédagogique pour mieux présenter ses propositions qui sont là aussi tout à fait étonnantes. Alors, il y a naturellement, s'il faut parler de la réforme, parce que la réforme est un élément, la réformation du monde chrétien, c'est une idée qui court dans l'Occident, dans tous les traités, les miroirs des princes, on a ce souci de la réforme. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est un peu le titre de mon livre, je dis d'Orient en Occident, c'est parce que la réforme, et pour ainsi dire, alimenté par cette culture que Philippe de Mézières a acquise en Orient, et c'est d'Orient que la réforme doit venir, pour ainsi dire, réchauffer les terres engelées de l'Occident. C'est donc un élément tout à fait étonnant.
Joël Blanchard, quelle est la foi des chrétiens du XIVe siècle ?
La foi des chrétiens du XIVe siècle, si on s'appuie sur Mézières, c'est la passion. C'est les plaies du Christ qui constituent le fondement de la liturgie et de la foi. C'est pour ça qu'il appelle son ordre militaro-religieux, qui est censé remplacer les hospitaliers et les templiers, l'ordre de la passion du Christ. Et c'est un ordre dont il a eu l'inspiration à Jérusalem, sur le tombeau, dans l'église du Saint-Sépulcre. Il nous dit qu'il a eu une illumination, et depuis donc 1345 jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais cessé de retravailler sur l'élaboration de cet ordre qui a existé. Parce que dans un des manuscrits, celui de la fin, une des dernières œuvres de Philippe de Mézières, après Nicopolis, après la défaite de Nicopolis, il établit une liste des chevaliers, des princes qui s'inscrivent ou veulent la promotion de ce nouvel ordre de la Passion. Et on a tous les princes du sang. On a le pape Benoît XIII également, on a des Anglais, on a des Allemands, on a des Espagnols, on a des Portugais. Donc un ordre cosmopolite, ça j'y insiste, parce que les ordres de chevalerie à cette époque-là sont nationaux. On est le chevalier d'un roi ou d'un autre, de la Jarretière. Là c'est un ordre cosmopolite qui indique bien, pour ainsi dire, l'ambition universelle de Philippe de Mézières. Il s'agit pas simplement, ça va très loin, parce qu'il s'agit pas simplement de réduire le schisme, mais également de supprimer le schisme entre l'Église grecque et l'Église latine, donc de rassembler la communauté chrétienne orthodoxe en un seul et même ensemble. Ça indique quand même la puissance des ambitions utopiques de Philippe de Mézières.
Vous avez utilisé le mot de laïque tout à l'heure, comment faut-il le comprendre ?
Il faut le comprendre en ce sens que Philippe de Mézières n'a pas fait tous les états de l'université. Il s'est arrêté, pour ainsi dire, très vite, les premières années. Mais il n'a pas passé les diplômes. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, parce que il n'appartient pas à la clergie. Il est donc moins, pour ainsi dire, formaté par les universitaires, et il a justement cette liberté dont on parlait tout à l'heure.
Alors un petit mot, et vraiment on va terminer là-dessus, sur le couvent des Célestins, donc il termine sa vie, qui est à Paris, qui n'existe plus, mais quelle institution importante pour les papes.
Alors c'est une institution très importante, parce que très proche de la royauté. Le couvent des Célestins, il se trouvait à l'endroit où se trouve actuellement la caserne de la garde républicaine. Et il était très près de l'hôtel Saint-Paul, très près de là où résidait le roi. C'est-à-dire que les contacts entre les Célestins et la royauté sont très étroits. Et Philippe de Mézières y occupait une place particulière, c'est-à-dire il avait à l'intérieur du couvent un espace réservé avec une chapelle, et il continuait à garder des contacts avec l'extérieur, avec Pétrarque, avec les grands écrivains de l'Europe. Il avait, pour ainsi dire, un pied dedans et un pied dehors. Nous revoilà à nouveau sur l'idée de marge et de transgression dont vous parliez tout à l'heure.
Et il meurt en 1405.
Voilà.
Joël Blanchard, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à notre micro. Je rappelle le titre de votre livre, Philippe de Mézières, Un monde rêvé d'Orient en Occident, aux éditions Passé Composé.
Je vous remercie beaucoup.
Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poincignon et Manon Houssin pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant. Bon dimanche.